Nous allons donc reprendre le cours de notre émission après cette pause musicale qui n'était pas Krang et Lions of Kobané. C'est les soucis techniques quand on fait la technique et un petit peu d'animation tout seul. C'était Amok, un groupe allemand de Bonn de 1995 qui faisait une chanson qui s'appelait donc Kurdistan. Donc là, nous sommes en ligne normalement avec Oriane Verdier. Bonjour Oriane.
Bonjour.
Vous nous entendez ?
Oui, très bien, et vous ?
Oui, tout à fait. Donc, je suis aussi en ligne avec Baker. Baker, vous nous entendez ? Allô, Baker ? Est-ce que vous nous entendez, Baker ? Baker, est-ce que vous êtes là ? Non, visiblement. Baker n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. On va trouver une autre solution pour faire intervenir Baker. Mais toujours est-il... Oriane, donc vous, est-ce que vous pouvez vous présenter pour introduire l'émission ?
Enfin,
pour
introduire. Oui, donc rapidement, je suis journaliste pour Radio France Internationale. Et je suis ancienne correspondante à Erbil, donc la capitale du Kurdistan irakien, et j'étais récemment pour RFI en Turquie, dans la zone kurde de Turquie.
Donc, quand vous dites récemment, c'était il y a combien de temps ?
Ben, je suis revenue il y a une semaine. Je suis partie en fait pour le lancement de l'offensive, et je suis restée la première semaine de l'offensive. Je suis rentrée jeudi dernier.
D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, quelle est la situation en Syrie ? Comment ça se passe ?
Alors moi, les informations que je peux vous donner, qui seront peut-être complétées par Baker une fois qu'on aura pu le joindre, ce que je sais, c'est principalement par rapport à des Kurdes que j'ai interviewés en Turquie, qui, donc beaucoup en fait, ont de la famille de l'autre côté de la frontière, parce que comme on l'a un peu présenté avec Jean-Pierre tout à l'heure, c'est vrai que en fait, les Kurdes habitent dans toute cette zone et donc en fait, ont des familles des deux côtés de la frontière, puisque c'est un Kurdistan unique normalement. Donc, il est très difficile pour eux de joindre leur famille parce que plus ils s'éloignent de la frontière, moins ils ont de connexion. Donc, en réalité, beaucoup de gens sont dans l'ignorance de savoir comment va leur famille. Il y en a certains qui ont pu se réfugier au Kurdistan irakien dans des camps. D'autres, on ignore vraiment ce qui se passe. On sait juste, on a beaucoup de vidéos des exactions commises par les forces nationales syriennes. Donc, ce sont les forces syriennes soutenues par Ankara. Beaucoup sont des forces extrémistes. On voit des vidéos où ils s'acharnent soit sur des combattants YPG, soit sur des civils, soit sur des membres du parti politique, le PYD, la branche syrienne du PKK. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'en ce moment, les choses vont très mal et que malheureusement, il n'y a plus de journalistes là-bas pour couvrir ça, ou en tout cas très peu.
Donc nous, merci Oriane, on a réussi à avoir Baker. Baker, est-ce que tu nous entends ? Ok, très bien. Donc, désolé pour les petits soucis techniques par rapport à l'intertéléphonique. Mais donc là, justement, nous, on posait une question. Là, à l'heure actuelle, où il y a eu le cessez-le-feu, quelle est la situation en Syrie ? Vous qui avez des contacts donc, au Rojava, quelle est la situation ?
Oui, effectivement, il y a deux semaines, l'armée turque a lancé une offensive aérienne et terrestre. Il s'est appuyé avec des groupes djihadistes pour attaquer cette région du nord-est de la Syrie, le Rojava. Alors, suite à des combats, à des fortes combats très violentes, que l'armée turque a donc utilisé tous les moyens, les armements lourds et même des gaz chimiques contre la population, avec l'intermédiaire des États-Unis, il y a eu un cessez-le-feu que les forces démocratiques syriennes, qui est les forces composées des combattants kurdes, arabes et chrétiens, ont accepté ce cessez-le-feu. Or, depuis l'annonce de ce cessez-le-feu, on observe sur le terrain que l'armée turque n'a pas du tout respecté ce cessez-le-feu, puisque ces groupes djihadistes qui sont liés à la Turquie et même l'armée turque continuent toujours à cibler à la fois les civils dans la région qui est actuellement sur leur contrôle, c'est-à-dire la région entre la ville de Gelesepi ou en arabe Dilabiat et jusqu'à la ville de Salih Kaniye Dans cette région qui est sur leur contrôle, malgré le cessez-le-feu, l'armée turque continue toujours en violant cet accord-là, en violant bien évidemment déjà le droit international, puisqu'il s'agit d'une intervention et d'une agression d'un autre territoire. Les forces kurdes, les forces démocratiques syriennes n'ont jamais posé des problèmes à la Turquie, n'ont jamais même menacé la Turquie. Alors la Turquie, bien évidemment, profite et il y a eu le feu vert qui est arrivé de Trump pour mener cette agression. Alors il faut savoir quelque chose de très important. Qu'est-ce que le but de la Turquie aujourd'hui? Le but de la Turquie en intervenant dans le Rojava au nord de la Syrie, c'est de mener une politique d'épuration ethnique contre la population kurde et les autres minorités de la région. Son but, c'est de refaire la même politique qu'en 1915, les Ottomans et la Turquie ont commis contre les autres minorités, c'est-à-dire les Arméniens, quand ils ont génocidé les Arméniens. Aujourd'hui, ils veulent faire la même chose, et d'ailleurs ils le font, là, avec l'utilisation des armes chimiques, contre la population civile, en tout simplement changeant la démographie de cette région, de région, Salekani et aussi Gelesepi, aujourd'hui, c'est vidé de leur population locale. Ce sont sous le contrôle de ces groupes djihadistes qui commettent des atrocités. On voit bien des images qui nous parviennent sur place.
Oui, c'est ce qu'Oriane nous a confirmé justement au début, vous n'étiez pas en ligne, mais...
De manière globale, la situation, c'est la suivante. La situation, malgré le cessez-le-feu, la Turquie n'arrête pas. La Turquie a des ambitions territoriales en Syrie dans le cadre de son projet de néo-ottomanisme. Il a pour but d'annexer cette région à terme à la Turquie. Et de toute façon, même Erdogan, on peut même le nommer hein, très, très clairement, ce n'est pas tout simplement le chef de la République, qui est la République turque, c'est le chef même, le chef réel de Daesh aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef réel de Daesh, c'est plus Baghdadi, c'est Erdogan qui tout simplement a recyclé tous ces groupes.
Ces milices, oui.
Que à l'époque, les combattants kurdes avec les autres combattants locaux, ils ont chassé de Kobané, chassé de Manbij, souvenez-vous, chassé de Raqqa. Le reste de ce combattant, Erdogan les a recyclés. Aujourd'hui, il les injecte sur d'autres appellations. Mais on le voit très bien à travers les images, à travers les vidéos, les atrocités qui le voient. Donc, le but d'Erdogan, c'est la suivante. Quand j'avais dit mener la politique de réparation ethnique, il s'attaque contre les Kurdes. Il s'attaque aussi contre. C'est aussi une menace. C'est aussi, pardon, il s'attaque aussi au projet du Rojava. Ce projet-là, qui est né, vous voyez, ce projet qui est né depuis 2012.
Bakar, on y reviendra sur le Rojava. Je me permets de vous couper puisque Jean-Pierre avait une question à vous poser.
Bah, je vais regrouper. J'ai deux questions. Alors, pour vous deux, hein, je sais pas qui va répondre. La première question, c'est on sait que les organisations kurdes sont pas sur la.
Je sais pas. J'ai pas entendu la question.
Je l'ai pas encore formulée. Excuse-moi. tu m'entends là?
Vas-y.
La voix est très basse.
Bon, ben je veux bien crier davantage. Oui, la question que je posais, c'est... Il y a plusieurs organisations kurdes, et en particulier en Irak, l'ENKS, hein, le conseil des Kurdes d'Irak, qui a beaucoup bagarré contre... les IPG et le PID, hein, qui y a eu des affrontements armés à un moment donné. Je voudrais savoir, alors ils sont affaiblis maintenant, mais je voudrais savoir quelle attitude cette organisation qui veut elle aussi dominer le Kurdistan, mais ce sont des Kurdes, quelle attitude elle a par rapport à la répression que subissent les Kurdes du Rojava. Voilà. Et la deuxième question, on a dit, mais alors tu as en partie répondu, que les exactions, on a même parlé de crimes contre l'humanité, elles avaient été faites les plus violentes avaient été faites par des espèces de milices qui n'étaient pas directement l'armée turque, mais à la solde de l'armée turque.
Alors en fait, je n'ai pas très bien, comme la voix était très basse, j'ai juste, il me semble, votre question, c'était par rapport aux attitudes des Kurdes irakiens.
Oui, notamment de certaines organisations kurdes irakiennes, tout à fait.
Non, leurs attitudes, écoutez, depuis, en tout cas, par rapport à l'offensive, je pense que les Kurdes irakiens, ils sont aussi s'inquiètent, ils s'inquiètent par rapport à cette agression de l'armée turque, puisque pour deux raisons. Je pense que la première raison, donc il s'agit qu'il y avait déjà des réfugiés qui sont arrivés sur le territoire du Kurdistan d'Irak depuis 2012, depuis le début de la guerre civile. Donc il y a une crainte pour eux qu'il y aurait d'autant plus des réfugiés qui vont arriver, mais aussi il y a une autre question qui est, je pense, primordiale pour c'est une préoccupation réelle pour aussi le Kurdistan d'Irak et le Kurdistan d'Irak. Il s'agit, comme j'avais évoqué, c'est la question des ambitions territoriales de la Turquie, puisque la Turquie, qu'il essaye, ou Erdogan, qu'il est en menant cette offensive, essaye donc tout simplement contrôler cette région pour plus tard arriver à l'annexer l'État turc. D'ailleurs, Erdogan lui-même, il le dit très clairement, hein, c'est pas mes mots, il le dit avec ses propres mots. Puis quand il dit pour nous, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée, comme il dit qu'on n'est jamais satisfait du traité de Lausanne de 1923, rappelons qu'à Lausanne, que même à l'époque, le projet d'un État kurde a été complètement tombé à l'oubli. Rappelons qu'à Lausanne, c'était où les grandes puissances ont reconnu l'État turc en tant que tel. Donc aujourd'hui, Erdogan dit même, on n'est même pas satisfait du traité de Lausanne, qui a reconnu la Turquie. Et donc son ambition, c'est d'avoir, même, c'est ce qu'eux-mêmes le disent, c'est d'avoir la grande Turquie, c'est d'avoir ce que les appellent le pacte national, c'est-à-dire dans ce pacte national, le Kurdistan d'Irak fait partie de ce pacte national, leur pacte national, bien évidemment. Et donc les Kurdes irakiens, ils sont inquiets, je pense, parce que si l'armée turque avance, ils avanceront vers la frontière, ces frontières aussi, les frontières entre le Kurdistan de l'Irak et le Kurdistan du Rojava. Donc l'armée turque veut justement contrôler aussi la poste frontière qui existe aujourd'hui, qui est sous le contrôle de l'auto-administration du Rojava. Donc son but, c'est de aussi davantage encercler le Kurdistan. Voilà, je pense que là, la position du Kurdistan est inquiète.
Excuse-moi, je voudrais te préciser quelque chose. Tu m'entends là ? Bon, je crie. Je parlais pas, bien entendu, je suis d'accord avec toi, des Kurdes en général, mais précisément de l'ENKS.
L'ENKS, l'organisation, une organisation du Kurdistan irakien.
Oui, écoutez, par rapport effectivement, donc, ENKS, qui était une organisation qui était d'abord appuyée par ce sont des personnalités qui étaient appuyées par
Barzani.
Barzani,
parti démocrate du Kurdistan irakien, Barzani. Aujourd'hui, cette organisation, ils sont complètement liés, ils sont devenus des pions de l'armée de l'État turc, puisque aujourd'hui, ils ne siègent plus à Erbil, dans la capitale du Kurdistan d'Irak, ils siègent aujourd'hui à Istanbul. Ils sont devenus le porte-parole d'Erdogan et ce sont tout simplement des gens qui applaudissent, qui légitiment l'armée, cette offensive de l'armée turque. Donc ce sont devenus des fonctionnaires en temps plein de Erdogan, au service d'Erdogan. Donc bien évidemment, tout ça, de toute façon, c'est comme j'avais dit au début, c'est vrai, il y avait une initiative de part de Barzani de se tenir, mais aujourd'hui, je pense que c'est même des évidences que le pouvoir kurde en Irak n'a plus les mains ou bien ne le contrôle plus. Ce sont aujourd'hui ils sont contrôlés par la Turquie, guidés par Erdogan, et ils représentent aujourd'hui tout simplement ils représentent des intérêts de l'armée turque et pas celle de la nation
Okay.
Comme j'avais dit, même les Kurdes irakiens, même Barzani, on l'a vu, ils sont vraiment inquiets par rapport à ce qui se passe, même si il y avait un désaccord.
Excusez-moi. Excusez-moi, Bakker. Moi, j'avais une question à poser un petit peu aussi pour faire tourner la parole et faire aussi intervenir Oriane, qui était justement en Turquie récemment. Oriane, justement, c'est quoi un petit peu l'ambiance en Turquie là ? Comment ça se passe ? Est-ce que il y a une ambiance de guerre ? La population, comment qu'elle soit kurde ou enfin la population kurde de Turquie, mais aussi la population non kurde de Turquie, quelle est l'ambiance un petit peu, la situation ?
Alors, en ce qui concerne les Kurdes de Turquie, de toute façon, c'est pas nouveau que la population est vraiment prise en étau entre ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans entre le PKK et Erdogan. Donc, il y a une tension permanente. C'est vrai qu'elle a vraiment monté là avec le début de l'opération, puisque aussi les ultranationalistes qui sont nombreux en Turquie, eux aussi se sont sentis libérés dans leurs actions et dans leurs paroles. Après, à partir du moment où il y a eu cet accord entre le YPG et le régime de Bachar al-Assad, beaucoup de Kurdes m'ont confié leur déception, m'ont dit qu'ils étaient tristes de voir le YPG favoriser finalement un intérêt politique propre plutôt que de résister à une collaboration possible avec ce régime de Bachar al-Assad, qui est quand même un régime oppresseur. Beaucoup critiquent cette collaboration qui n'est finalement pas tellement nouvelle entre le PYD et le régime de Bachar al-Assad.
Ok, d'accord. Et là, un petit peu, Bakker, c'est quoi quelles sont les options justement pour le Rojava, donc cette partie donc du Kurdistan syrien qui est donc auto-administré par les YPG. Quelles sont les options un petit peu là à court terme qui peuvent se dégager d'ici les prochaines semaines, selon vous? Allô, Bakker, est-ce que vous m'entendez, Bakker? Bakker, je crois que la communication a coupé avec Bakker.
Je vais en profiter pour poser une question à Oran, en attendant qu'on rétablisse le contact. J'aurais voulu savoir, puisque tu parlais de la situation en Turquie des Kurdes, est-ce qu'il y a eu des tentatives de manifestation, par exemple à Istanbul, comme ça avait eu lieu à un moment donné dans les quartiers à majorité kurde, ou est-ce qu'au contraire c'est la terreur qui s'est installée ?
Alors justement, non, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations. Et moi, j'ai travaillé en Turquie avec un fixeur qui était partisan de la cause kurde et qui était presque déçu justement de ne pas voir les Kurdes de Turquie se mobiliser pour soutenir leurs frères et même leurs familles, comme je l'expliquais tout à l'heure, de l'autre côté de la frontière. C'est vrai que là, on a... Et puis finalement, j'ai parlé aussi avec des Kurdes qui étaient pro-Erdogan. Hein, donc les Kurdes sont aussi divisés, ne sont pas tous derrière le PYD et le PKK, puisqu'en Turquie, il y en a quand même beaucoup qui ont subi ce conflit, qui ont eu des morts à cause de ce conflit et à cause de la lutte du PKK. Donc, en effet, aujourd'hui, c'est un peu, j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdu. Tout le monde, en effet, est très, très triste de ce qui se passe au niveau humain. Mais politiquement, il est vraiment difficile d'arriver à se regrouper.
Oui, est-ce qu'au final, il n'y a pas un petit peu, alors je ne sais pas si le terme repli nationaliste est approprié, mais dans le sens où par rapport à un grand projet d'unifier les Kurdes des différents pays sur lesquels ils sont répartis, est-ce qu'il n'y a pas là, en fait, effectivement, une espèce de repli où chacun essaye de sauver les meubles tant qu'il est encore possible de les sauver ?
Oui, justement, moi j'ai discuté avec un responsable du Parti de Libération du Kurdistan, un parti en Kurdistan de Turquie, qui me disait un peu ça justement, qui reprochait ça au PYD comme au PDK, donc le parti au Kurdistan irakien, c'est-à-dire que chacun essaye de se débrouiller avec le régime avec lequel il a affaire, donc en Syrie avec le régime de Bachar al-Assad, en Irak avec le gouvernement de Bagdad, et finalement ce rêve d'unification des quatre parties du Kurdistan passent un peu à la trappe. Et finalement, ça a toujours été un peu difficile. Mais c'est finalement ce qui est compliqué dans n'importe quelle région ou pays reconnu. Il y a différentes branches, différents courants politiques. Et là, la difficulté est qu'en plus, il faut que chacun fasse face au régime du pays dans lequel il est.
Oui, puis il n'y a pratiquement pas de région où il n'y ait que des Kurdes. Donc les projets politiques, ils doivent tenir compte du fait qu'il y a d'autres gens. Et que ça ne se traduise pas par soit de l'épuration ethnique, soit de la pure et simple assimilation. Donc il y a tout un projet à inventer.
Oui, exactement. Il y a un projet inventé. Et en plus, dans des pays où il y a déjà extrêmement de violence, une violence qui, bien sûr, comme dans tout endroit, quand il y a de la violence, amène chaque communauté à se replier sur soi. Ça, je peux peut-être plus en parler sur le Kurdistan irakien, puisque c'est ce que je connais le mieux. C'est vrai qu'au Kurdistan irakien, il y a, comme vous le dites, des Arabes sunnites, des Arabes chiites, des yézidis, des chrétiens. Donc, le message est que les Kurdes donnent leur place à chacun, mais en effet, concrètement dans la vie tous les jours, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie sociale, c'est très compliqué d'arriver à calmer tout ça, à calmer la violence avec laquelle tout le monde a grandi finalement, et de construire un projet ensemble et en même temps qui tende vers un Kurdistan. Et donc, dans le mot Kurdistan, il y a quand même le mot kurde.
Oui, ben c'est effectivement, faut pas être angélique, hein, je suis d'accord. Le projet, c'est bien qu'il soit dit parce qu'il peut être discuté. Maintenant, faut pas non plus rêver et penser que comme ça tout est bien, tout est merveilleux. Ça, je pense que il faut se garder aussi de rêver complètement là-dessus. Mais enfin, le problème, il est posé. Et le problème posé, ça veut dire que il y a quand même des perspectives qui peuvent se discuter dans toute cette partie du monde, dans le Moyen-Orient, pour sortir de l'imbroglio nationaliste et qui domine la région depuis 50 ans.
Pour rebondir un petit peu sur les propos de Baker tout à l'heure, qui lui disait en fait que l'Erdogan en fait menait en fait une opération de guerre extérieure pour sécuriser le territoire. Quelle est la rhétorique justement employée par le gouvernement turc sur cette offensive qu'il mène à l'heure actuelle en Syrie, effectivement une offensive extraterritoriale, puisque la question kurde turque, il l'amène en fait en Syrie. Comment est-ce que eux ils défendent cette offensive en Turquie? Ça se passe comment de ce côté-là, l'information?
Alors, il y a deux rhétoriques. Il y en a une officielle qui est en effet de défendre la Turquie contre les terroristes. En même temps, bien sûr, lui, il amène la problématique des Kurdes de Turquie en Syrie, mais en réalité, c'est aussi le PKK qui est allé s'implanter aussi en Syrie. Donc, je veux dire, il y a quand même une réalité qu'il y a une branche du PKK en Syrie. Après, Erdogan choisit de les traiter de terroristes, de les traiter en terroristes, et donc de justifier, de défendre la sécurité nationale en allant lancer une opération au-delà de ses frontières. Après, quand on discute avec des gens plus ultranationalistes, donc qui soutiennent Erdogan, mais qui, eux, se sont totalement libérés dans leurs paroles, certaines personnes nous expliquent tout simplement que de toute façon, la Turquie, la frontière de la Turquie va de Alep jusqu'à Mossoul et que, en fait, le but est de reprendre le territoire qui leur appartient.
Oui, un projet pan-turc, en fait, comme l'expliquait voilà, Baker tout à l'heure.
Oui, exactement.
Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que, Jean-Pierre, tu as encore une question ou...
Après.
Bon, et ben dans ces cas-là, on va passer une chanson pour faire une petite pause. Donc c'est une chanson Oriane Verdier que nous avait conseillée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle cette chanson?
Donc c'est une chanson que moi j'aime énormément. C'est une chanson qui dit nous étions kurdes et nous serons toujours kurdes. On est kurdes au-delà de notre religion. On est kurdes malgré tous les gouvernements oppresseurs. On sera toujours kurdes. Et donc c'est sur justement ce sentiment de kurdité qu'on ressent vraiment. Enfin moi quand j'étais en Turquie là, j'ai été impressionnée de ressentir j'avais l'impression d'être au Kurdistan comme j'étais en Irak.
Ok. Donc on va s'écouter cette chanson puis après on viendra pour une courte reprise d'interview pour pouvoir passer l'autre interview qu'on a eu avec un kurde irakien pour lui. Voilà, donc là on va s'écouter Er Kurd Ebin, donc une chanson kurde. C'est parti.
Her kurd buynu, her kurd ebin Thank you.